J'aimerais ce matin commencer à vous parler sur la sanctification. Car je crois que c'est ce que Dieu désire pour son peuple. C'est ce que désire pour l'Église d'Istre. Jésus, on le sait, notre Seigneur, notre Sauveur, est à la porte. Et nous le savons, et c'est la Bible qui le dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Aussi, je crois qu'il est important que nous nous appliquions les uns les autres à pouvoir, comme le dit également la Bible, à rechercher la sanctification. Et c'est ce que nous allons faire ensemble, grand comme petit. Peut-être arriver à se poser toutes ces questions qui sont élémentaires concernant la sanctification. Qu'est-ce que cela signifie? Quand a lieu la sanctification dans la vie d'un homme? Et puis aussi des questions pratiques. Comment se sanctifier au quotidien? Est-ce que vous êtes intéressé avec moi à pouvoir répondre à ces différentes questions? C'est ce que nous allons faire ce matin. Alors, que signifie le mot sanctification? Alors, bien évidemment, il y a plusieurs réponses donc à cette question et nous allons juste en retenir deux ce matin. C'est le temps qui nous manquerait pour aller un peu plus en profondeur. Mais une première réponse, c'est la suivante. Alors déjà, on le sait, le mot sanctification, il vient du verbe sanctifier. Et le verbe sanctifier veut dire séparer ou mettre à part pour Dieu. Ainsi, la sanctification, c'est quoi? La sanctification est donc l'action qui consiste à séparer, à mettre à part pour Dieu. Et on le voit dès l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, soit des choses, des objets, même des personnes qui sont sanctifiées pour Dieu. Et j'ai pris pour vous quelques exemples très rapidement que je vous cite pêle-mêle. On a par exemple les ustensiles du tabernacle ou bien du temple qu'a érigé donc le grand roi Salomon qui furent quelque part mis à part pour l'usage exclusif du temple. Il était d'ailleurs interdit de pouvoir utiliser ces ustensiles pour autre chose. Parce que ces instruments, ces outils, ces récipients et tout ce qu'il y avait dans le temple étaient consacrés, étaient sanctifiés, étaient finalement mis à part pour Dieu. On a l'exemple aussi de cette montagne, le mont Sinaï, où Dieu a choisi de pouvoir descendre de manière particulière. Un seul pouvait monter sur cette montagne, c'est notre ami Moïse, pour rencontrer Dieu et recevoir de lui les 10 commandements. Mais Dieu avait demandé à ce que toute cette montagne soit sanctifiée. Autrement dit, le peuple ne pouvait pas toucher cette montagne sans être puni de mort. Et que dire également du grand prêtre Aaron avec ses fils, qui, lui ainsi que ses fils, mais également leurs vêtements, étaient comme sanctifiés, mis à part pour Dieu. Le vêtement que portait le grand sacrificateur était un vêtement dit sacré avec l'éphod pectoral, avec toutes ces pierres qui étaient enchâssées, les 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. On pourrait rallonger la liste. Donc ainsi, la sanctification, c'est l'action qui consiste à séparer ou à mettre à part pour Dieu. Mais il y a aussi une deuxième réponse qu'on pourrait donner à cette question. Que signifie le mot sanctification? Le verbe sanctifier veut aussi dire séparer, mais cette fois-ci séparer de toute souillure. Amen ou pas amen? Et on a un exemple, c'est le roi Ézéchias. Cet homme, il est extraordinaire. Nous le retrouverons dans le ciel. Et nous n'aurons pas à lui poser aucune question parce que la Bible nous dit que toute chose nous sera révélée là-haut. Mais cet homme, dans sa vie qui a été extraordinaire, il a voulu mener des grandes réformes, des réformes bien sûr spirituelles. Et ce qu'il a commencé à faire parmi le peuple de Dieu, c'est rétablir le temple. Un temple qui était fermé, qui était barricadé. Il a commencé à ouvrir les portes, à réparer les portes. Et puis après, il a convoqué les Lévites, mais aussi les sacrificateurs. Et on peut le lire, c'est un premier verset que je vous propose de lire avec moi. 2 Chroniques, chapitre 29, du verset 3 à 5. Et nous lisons ensemble. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 3 à 5. Je vous laisse le temps de chercher. Je veux entendre le bruit des feuilles qui font du bien, qui apportent une petite brise spirituelle à notre culte ce matin. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 3 à 5. Regardez ce qu'il est dit. La première année de son règne, son père Akaz, donc, était mort et c'était un homme abominable aux yeux de l'Éternel. Mais ce jeune homme, la première année de son règne, parlant d'Ézéchias, au premier mois, qu'est-ce qu'il fit? Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les lévites qu'il assembla dans la place orientale. Et il leur dit, écoutez-moi, lévites, maintenant sanctifiez-vous. Sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères. Et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Alors j'y pense maintenant, alors que je suis en train de lire ce passage. Il commença à réparer les portes. La porte, c'est un moyen pour entrer. Quand vous êtes entré dans ce lieu, vous êtes passé par la porte. Vous n'êtes pas passé par une fenêtre. Qui est passé par une fenêtre? On est tous passés par la porte. Et la première chose, la première démarche spirituelle, c'est de pouvoir permettre que la porte de notre cœur soit réparée afin que le Saint-Esprit puisse pleinement y pénétrer et nous donner à ressentir la présence de Dieu. Mais la deuxième action, bien que fit Ézéchias, c'est de pouvoir convoquer tous ceux qui étaient les ministres du culte, les lévites, mais aussi les sacrificateurs, en leur demandant de se sanctifier eux-mêmes, mais sanctifier également la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, en quoi faisant? En mettant ce qui est impur hors du sanctuaire. Et spirituellement parlant, voilà le programme, entre autres, de ce que le Saint-Esprit me demande de vous dire ce matin. C'est que nous allons nous évertuer avec l'assistant du Saint-Esprit à pouvoir mettre hors de nos vies, hors du sanctuaire, car nous sommes le temple du Saint-Esprit, tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et ne nous flattons pas ce matin, nous avons besoin de marcher de sanctification en sanctification. C'est Dieu lui-même qui l'a dit dans le livre d'Apocalypse, que celui qui se souille encore, mais que celui qui se sanctifie encore. Qui peut lever la main et dire, je suis pur ce matin. Je suis exempt de tout péché. Personne. Et si on est assez sensible au Saint-Esprit, il saura nous révéler encore dans nos cœurs ce qui a besoin d'être donc émondé. Voilà donc une deuxième réponse à cette question. Que signifie le mot sanctification? La sanctification est donc aussi l'action qui consiste à nous séparer de toute souillure quelconque. Et on peut dire aussi qu'il y a donc deux significations qu'on vient de voir précédemment, deux significations de la sanctification qui sont finalement intimement liées. Car quelque part, on ne peut pas se mettre à part pour Dieu sans que nous soyons séparés de toute souillure. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je le répète. On ne peut pas réellement, véritablement se mettre à part pour Dieu sans être séparé de la souillure du péché. Pourquoi? Parce que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu trois fois saint. C'est un Dieu qui a en horreur le mal. C'est un Dieu qui ne supporte pas même le moindre mensonge, qui nous invite à pouvoir marcher dans la droiture, dans la justice. Ce Dieu, il ne permettra même pas de compromis. D'ailleurs, ce qu'il met en évidence dans l'une des églises qu'il a citées dans le livre d'Apocalypse, il reproche cette église, c'est qu'elle soit tiède. Puisses-tu à la rigueur être froid? À la rigueur, tu es froid, tu es dehors, tu es bouillant, tu es à l'intérieur de la maison, mais tu es mi-figue, mi-raisin, tu es tiède. Et nous ne voudrions pas ce matin être tiède. Nous voudrions être bouillants, passionnés pour notre Seigneur Jésus. Voilà donc deux significations de la sanctification. Alors une deuxième question, je l'ai citée en introduction tout à l'heure. Quand a lieu la sanctification dans la vie d'un homme? Je dirais que le processus de sanctification, elle commence à quel moment? Elle commence dès l'obtention du salut qui nous est offert en Jésus-Christ. Le moment où on se repent, où on se convertit à Dieu, le miracle se produit. Dieu nous met à part. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'on a été comme arraché du royaume des ténèbres pour nous emmener directement dans le royaume, alléluia, du Fils, Jésus-Christ, le Fils de son amour. Littéralement, on a été comme mis à part. On a été littéralement sanctifié. On l'a été par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il nous a été fait mention ce matin au travers d'un don spirituel du bois qui a été jeté pour ramener ce fer de hache. Le bois nous parle bien sûr de la croix, de l'œuvre de Christ. La croix en elle-même est une abomination. C'était le moyen par lequel on méprisait et puis on exposait les plus vils brigands. Mais ce moyen-là, Dieu l'a utilisé pour faire éclater sa gloire. Parce qu'à la mort de la croix, Jésus-Christ a laissé son sang couler. Et ce sang a le pouvoir de nous sanctifier. C'est ce que nous dit quelques versets que je vous invite même à noter. Hébreux chapitre 10, le verset 10, ne le cherchez pas. Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est comme ça que nous avons été mis à part. C'est pour ça qu'on nous appelle les saints. Le saint, ce n'est pas forcément ceux qui sont canonisés. Le saint, c'est même le petit enfant, le petit adolescent qui a donné son cœur à Jésus. Il a été sanctifié, il est mis à part. C'est Paul aussi qui va le dire autre part, hein, Corinthiens chapitre 6 et le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Juste une remarque sur ce passage, vous avez été sanctifiés. Une remarque sur la conjugaison de ce verbe sanctifier. Vous avez été sanctifiés. Ça a été fait. Ce bienfait, c'est un acquis pour le croyant. Mais voilà, le fait d'avoir été à un moment donné sanctifié lorsque nous sommes repentis, convertis à Dieu, ne nous autorise pas à vivre dorénavant d'une manière désordonnée devant Dieu. Et c'est alors que le chrétien, mis à part pour être la propriété de Dieu, est maintenant appelé à être saint. C'est encore ce que Paul exprime dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Excusez-moi, je vous donne pas mal de versets ce matin, mais je crois que c'est par la parole qu'on sera pleinement convaincu. Ça vous dérange qu'on donne des versets comme ça? Voilà, c'est important, hein? Ce n'est pas mes paroles qui sont importantes, ce sont les paroles de Dieu. C'est elles qui produisent la vie. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Voilà, il commence son courrier, l'apôtre Paul, il s'adresse à l'église de Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, mais également le nôtre. À ceux qui ont été sanctifiés. Il y a dans ce verset comme deux grandes vérités qu'il nous faut retenir. Déjà, un premier fait qui a été déjà accompli. On l'a lu, nous avons été sanctifiés en Jésus-Christ. Ça, c'est acquis. Mais on se rend compte qu'il y a aussi un fait qui est aussi en cours. Nous sommes appelés à être saints dans notre vie quotidienne. C'est ce qu'il explique. Appelés à être saints. Oui, je suis sanctifié. Oui, j'étais mis à part. Mais cette mise à part, je dois la démontrer, je dois la manifester dans ma marche de chaque jour. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification. Et même, c'est un mot un peu théologique, cette sanctification, on l'appelle la sanctification continuelle et pratique. Vous le comprenez pourquoi? Et je crois que jusqu'à notre dernier souffle, nous serons amenés à pouvoir pratiquer cette sanctification continuelle tout le long de notre marche chrétienne et aussi pratique. Une sanctification continuelle et pratique qui consiste en même temps à une séparation continuelle de tout ce qui déplaît à Dieu, mais aussi parallèlement une pratique continuelle de tout ce qui est agréable à Dieu. Alors je le répète, cette sanctification continuelle et pratique consiste à pouvoir chaque jour effectuer avec l'aide du Saint-Esprit une séparation avec ce qui déplaît à Dieu. Mais aussi en même temps une pratique continuelle de tout ce qui est agréable à Dieu. Se sanctifier, ce n'est pas seulement se mettre à l'écart du mal, mais c'est aussi chercher à manifester, à pratiquer ce que Dieu nous demande. D'ailleurs, quand je cherche et quand je m'applique à pratiquer ce que Dieu me demande, immanquablement, je me détourne du mal et des choses qui pourraient me souiller. La sanctification continuelle et pratique consiste en fait à pouvoir marcher sur une voie. Avant de venir ici, vous avez pris un certain chemin, mais la voie dont je fais mention, c'est une voie spirituelle. Elle est devant nous. Dieu l'a lui-même frayée. Cette voie, c'est la voie sainte. Et elle est dévoilée, elle est révélée dans Ésaïe chapitre 35, les versets 8 à 10. Regardez avec moi, et là je vous encourage à chercher avec moi dans l'Ancien Testament, vous l'avez compris, Ésaïe chapitre 38, du verset... Ésaïe chapitre 35, excusez-moi, du verset 8 à 10. Je vous laisse le temps de pouvoir chercher ce passage. Ésaïe chapitre 35, verset 8 à 10. Il y aura là un chemin frayé. C'est une prophétie que nous devons prendre en compte. Prophétie annoncée 7 siècles avant la venue du Seigneur Jésus par la bouche du prophète Ésaïe. Et il dit, il y aura là un chemin frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. Écoutez, nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternel couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Une promesse de l'Éternel. Si nous nous engageons ce matin à pouvoir marcher sur cette voie sainte, qui est ni plus ni moins la marche de sanctification à laquelle Dieu nous appelle, nous les rachetés, eh bien nous connaîtrons cette joie éternelle qui couronnera notre tête. Moi, ma vie chrétienne, je veux la vivre avec joie. Il n'y a pas plus triste qu'un triste chrétien. Parce que quand on vient au Seigneur, il y a de la joie. Même ses commandements ne sont pas pénibles. Avec une grande joie en cours dans la carrière qui nous est ouverte. Et Dieu nous laisse eh bien, une telle assurance eh bien, que sur ce chemin frayé, il n'y aura pas d'impur, il n'y aura pas de confusion, il n'y aura pas de bête féroce. C'est-à-dire qu'il y a une telle protection. Le diable ne peut pas toucher ceux qui restent et qui demeurent dans la main de Dieu. Et nous avons besoin de demeurer dans la main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais la question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, ce matin, si nous analysons notre cœur et notre vie, est-ce que nous sommes sur ce chemin? Est-ce qu'il n'est pas arrivé à quelques-uns de pouvoir tergiverser, s'égarer dans des chemins de traverse? On a besoin de revenir à Dieu. On a besoin de se repositionner devant Dieu. Et au début de cette nouvelle année, c'est souvent le temps où nous faisons des constatations et nous prenons aussi des résolutions. Prenons la résolution de retrouver cette voie sainte, ce chemin qui mènera à coup sûr à bien vers la vie et vers la vie éternelle. C'est David qui a dit dans le psaume 139, les versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Frères et sœurs, ne cherchez pas. La voie de l'éternité, c'est la voie sainte. La voie de l'éternité, eh bien, c'est cette voie au travers de laquelle le Seigneur eh bien, nous invite ce matin à pouvoir engager nos pas. La voie de la sanctification. Alors que certaines églises invitent les gens à pouvoir vivre une vie prospère ici-bas. Vous savez, on n'a pas d'espérance sur cette terre. Notre espérance, elle va au-delà de cette terre. Elle est là-haut. Ma véritable maison, j'aime le dire avec fierté, elle est là-haut. On me connaît là-haut. Dieu prononce mon nom. Un jour, le Seigneur, eh bien, comme vous, m'a fait la grâce de pouvoir le rencontrer. Et toute mon espérance, elle est là-haut. Je veux vivre pour mon roi. Vous savez, je le dis, j'ouvre et je ferme la parenthèse. C'est avec joie que j'allais sur mon lieu de travail. Je ne traînais pas les pieds. C'est beau. Merci Seigneur pour eh bien, le travail qu'il nous accorde. Mais il y a un travail plus excellent, plus grand. C'est de pouvoir servir le Seigneur dans notre génération. Chacun à notre place. Parce que ce n'est pas une question de fonction. Ce n'est pas une question de ce que nous faisons ou la quantité. C'est eh bien, dans quel état d'esprit nous le ferons. Et Dieu veut que nous puissions le faire avec joie, mais aussi avec sainteté. Parce que le Dieu qu'on sert est un Dieu saint. Alors je voudrais terminer en parlant bien sûr de ce troisième et dernier point. Question pratique. J'aime le côté pratique. Comment se sanctifier au quotidien? Tiens, comment se sanctifier au quotidien? Il nous parle de sanctification ce matin, et on sait, on a compris la définition, on a compris que cette sanctification, elle est amorcée, elle prend son point de départ lors de notre conversion, et on a compris qu'on est engagé les uns et les autres dans une sanctification continuelle et pratique. Mais comment se sanctifier au quotidien d'une manière pratique? Je voudrais juste vous proposer 3 P. 3 P qui vont nous aider, et c'est un mémo technique pour vous aider, entre autres, à comment se sanctifier au quotidien, les 3 P de la vie spirituelle. Le premier P, grand P, je veux parler là du Saint-Esprit, le consolateur. Et consolateur, en grec, ça se traduit par parakletos. Vous comprenez le premier P? Parakletos. Et il ne faut pas qu'on s'illusionne, par nous-mêmes, nous n'y arriverons pas. Arrête de te démener. Arrête même de faire des vœux que tu ne tiens pas. Des engagements, année après année. Allez, j'arrête. Et puis, des pleines promesses. Par toi-même, tu n'y arriveras pas. Mais par contre, si, eh bien, par la foi, tu t'approches de Dieu et tu demandes le secours de celui eh bien, que nous, tu nous as donné. C'est extraordinaire, Jésus est descendu, il a manifesté cette œuvre unique que lui seul pouvait faire. Il est mort à la croix pour nous. Mais le troisième jour, après sa mort, il est ressuscité. Et il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un autre consolateur. Autrement dit, un autre paraclétos. Et il fallait qu'il soit ramené au ciel. Après son ascension, Dieu le Père nous a envoyé le Saint-Esprit par la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça a commencé le jour de la Pentecôte par les environ 120 qui étaient dans cette chambre haute. Et ça continue encore. Le Consolateur est à notre contact au quotidien. Le tort de l'Église aujourd'hui, et je précise l'Église aussi, entre autres de Pentecôte, c'est qu'on a oublié le Saint-Esprit dans notre affaire. Quand je lis le livre des Actes, on voit au départ qu'il est dit « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous ». Aujourd'hui, c'est « Il a paru bon à nous et puis peut-être au Saint-Esprit de… » Mais il y avait une telle prééminence, une telle place de choix pour le Saint-Esprit que les apôtres d'une même voix disaient « Il a paru bon d'abord au Saint-Esprit ». Et on a besoin de travailler avec le Saint-Esprit. On a besoin de le laisser collaborer avec nous et le laisser nous conduire. Il veut nous conduire. Le consolateur, le paraclétos, est par définition le défenseur. Il est l'avocat. Il est le soutien. Il est la console sur laquelle on peut pleinement s'appuyer. C'est lui que le Père nous a envoyé en Jésus-Christ. C'est lui sur lequel on peut se reposer. C'est lui qui va nous aider à nous sanctifier. C'est lui le paracléto, c'est lui le premier paix dont nous avons besoin dans notre vie de chaque jour. Regardez ce qu'il est dit, par exemple, dans Galates, chapitre 5 et le verset 16. L'apôtre Paul, avec une grande assurance, va dire « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et alors vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Voilà le problème aujourd'hui. On marche selon nos émotions, selon nos sentiments. Une âme qui n'est pas régénérée, on écoute ses sentiments et on agit d'une manière charnelle. Mais voilà la clé qui peut nous donner de marcher en victoire, qui va nous permettre aussi de marcher sur la voie sainte. Marchez selon l'esprit, alors vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand je marche par le Saint-Esprit, je me laisse conduire par lui. Il me conduit dans toute la vérité. Il me conduit dans le chemin de la justice. Quand je marche selon l'esprit, je me laisse aussi convaincre. On a besoin d'être convaincu de péché. On a besoin de laisser le Saint-Esprit nous donner le dernier mot, parce que quelquefois on conteste avec le Saint-Esprit. Et on argumente. « Mais Seigneur, tu as vu ce qu'il a fait, etc. » Mais laisse-toi convaincre par le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te montrer peut-être dans ta vie ce que tu as encore besoin de confesser. Et là commence le processus. Lorsque nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et alors nous purifier de toute iniquité. Permettons au Saint-Esprit de nous convaincre de péché afin qu'il opère son action de sanctification en nous. Voilà un premier P. Un deuxième. Le deuxième, il va de pair avec un troisième. Et je les appelle, j'aime les appeler, les deux pieds de la marche chrétienne, de la vie chrétienne. Quels sont ces deux P? Prière et P, parole. Julien, oh, merci. On va commencer par la parole. Mais déjà, pour confirmer ce que vous avez donné et que vous avez donné en toute vérité, regardez juste ce simple verset qui va résumer ces deux derniers P qu'on va voir ensemble. Jean chapitre 17, verset... 1 Timothée chapitre 4 verset 5 avant. Tout, écoutez-moi bien, tout, allez aidez-moi à le dire, tout, alors on le lit ensemble, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Est-ce que nous avons compris, frères et sœurs? Comment se sanctifier? L'apôtre Paul nous donne la réponse. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Dites-moi, un chrétien qui n'a plus la parole de Dieu en face de ses yeux, qui a cessé depuis des mois ou peut-être même depuis des semaines à ne plus prier, est-il sur le chemin de la sanctification? Ne répondez pas. Mais intérieurement, nous avons la réponse. Mais Dieu te dit ce matin, pour que tu retrouves un sens à ta vie, pour que tu retrouves la bonne direction, c'est-à-dire à contre-courant de l'esprit de ce monde. Tu as besoin de comprendre que tout est sanctifié par la parole de Dieu, mais aussi par la prière. La parole de Dieu, pourquoi je le dis? Parce qu'il est dit dans Jean chapitre 17, verset 17, c'est le verset qui va s'afficher maintenant, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et ce n'est pas pour rien que Jésus a dit à ses disciples, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Le simple fait d'être en contact avec la parole de Dieu. Vous savez, c'est un combat d'être attentif et d'écouter la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas imaginer tout ce que l'ennemi peut dégager comme énergie pour nous empêcher à être distrait juste à ce moment-là. Il y a des personnes qui, dimanche après dimanche, s'endorment, mais juste pile poil à ce moment-là. Puis après, ils se réveillent. C'est les gens qui sont après qui sont les premiers à parler. Mais c'est tellement important. Parce que la parole de Dieu, non seulement il faut l'écouter, pas l'entendre seulement, l'écouter avec une oreille favorable. Il faut aussi la recevoir avec douceur, parce qu'il y en a qui contestent avec la parole. Et la Bible dit, c'est clair, il résiste à l'orgueilleux. Et l'orgueilleux, il n'a pas de place auprès de Dieu. La parole, c'est oui et amen. Et croyez-moi, la parole de Dieu a le pouvoir de nous sanctifier. Lorsque dans notre intimité avec Dieu, ou même lorsque nous sommes là dans des réunions plénières, nous recevons cette parole avec un cœur vrai, un cœur ouvert, un cœur sincère, un cœur qui ne s'enfle pas, un cœur qui est prêt à recevoir tout ce que le Saint-Esprit a à lui dire, mais il y a un effet incommensurable. Et même après le culte, il faut veiller parce que le diable, quelquefois, nous laisse vivre notre culte et nous attend juste à la sortie pour venir tel le corbeau, venir picorer toute cette semence, parce que la parole de Dieu est une semence. Et elle a le pouvoir de nous transformer. Elle a le pouvoir de nous sanctifier. Prenons juste un exemple. Ce passage qui est très important pour moi concernant le thème que nous partageons. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. On va le lire. Ce verset, on va même le continuer jusqu'au chapitre 7 et le verset 1. Mais lisons déjà au chapitre 6, du verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'est-ce que l'iniquité? C'est l'injustice. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial est l'un des noms du diable. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, vous êtes, je suis, le temple du Dieu vivant et vrai, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et nous retrouvons notre notion de sanctification. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et alors je vous accueillerai. Si nous n'obéissons pas à cela, Dieu ne pourra pas nous accueillir. On va prier, on va prier, on va se fatiguer. Mais Dieu ne pourra pas nous approcher et nous ne pourrons pas non plus nous approcher de lui. Parce que c'est un Dieu trois fois saint. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Regardez ce qu'il est dit, 2 Corinthiens chapitre 7 et le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, et ça confirme tout ce qu'on avait dit précédemment, en achevant notre sanctification, de quelle manière? Dans la crainte de Dieu. La sanctification, elle doit se vivre parce que nous avons un grand respect pour Dieu et pour les choses de Dieu. Il y en a, ils viennent devant Dieu avec une manière désinvolte. Mais c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est des gens qui peuvent être chrétiens, mais ne connaissent pas, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Quand on a la crainte, frères et sœurs, si Jésus venait apparaître, moi le premier je tombe, mais vous aussi. Il est glorieux. Jésus, ce n'est pas notre copain. Ne prenez pas le nom de Dieu en vain. Et son nom, il est glorieux. Il est grand, il est fort, il est puissant, il est redoutable. La Bible dit que la voix de Dieu fait trembler les biches. Et les font même également enfanter. Achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ce passage est vraiment un appel solennel à la sanctification. Et par ma bouche, le Saint-Esprit appelle l'Église de Jésus-Christ, l'Église d'Ist, à pouvoir se sanctifier. Dieu veut répondre à plusieurs questions, mais aussi il veut répondre à une prière qui s'est élevée il y a des années et jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, manifeste ta gloire. Dieu nous prend au mot, mais il nous demande maintenant d'entrer d'une manière sérieuse dans ce processus de sanctification. Et cela peut impliquer pour nous de pouvoir peut-être revoir nos papiers administratifs et savoir si nous sommes en règle vis-à-vis des choses terrestres. Puis après, savoir mettre notre vie en règle sur le plan spirituel. Savoir si nous sommes en paix avec nos frères et nos sœurs, si nous sommes en paix avec notre prochain. Et également être en paix avec Dieu, parce que tout s'imbrique, tout est intimement lié. On a besoin d'arrêter de faire la politique de l'autruche et laisser Dieu véritablement nous parler pour qu'enfin les églises de cieux puissent s'ouvrir et que Dieu puisse se manifester comme il le voudrait. Car croyez-moi, il est plus intéressé que nous à ce que même véritablement un réveil se produise dans cette ville d'Istres. Ce que je vous dis, je me le dis à moi. Et je suis d'autant plus responsable. Parce que je dois apporter la parole de Dieu et pas ce qui pourrait flatter les cœurs. On a besoin de pouvoir prendre à cœur cet appel solennel de la sanctification. Parfois, des gens me demandent, est-ce que un chrétien peut aller ou peut faire ceci ou cela? Mes frères et sœurs, il y a une question très simple qu'on peut se poser à soi-même. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et je crois que quand on est honnête face à cette question, le Saint-Esprit est capable de nous dire, au plus profond de nous-mêmes, fais-le ou ne le fais pas. Pour moi, le problème, il est dans l'obéissance ou pas de ce que le Saint-Esprit nous dit. Mais la réponse, on l'a toujours. Et je parle surtout aux chrétiens. Et je veux nous responsabiliser ce matin. Nous savons ce que nous avons à faire. Là où le bât blesse, c'est parce qu'on obéit, on obéit ou on n'obéit pas à ce que Dieu nous demande. Parfois aussi, d'autres me demandent, est-ce que un chrétien peut aller à tel ou tel endroit ? Mes frères et sœurs, posons-nous la question suivante, c'est-à-dire, est-ce que Jésus sera le bienvenu dans l'endroit où nous désirons aller? Car ce n'est pas un scoop. Il y a des endroits où le Seigneur Jésus n'est pas le bienvenu. Est-ce que vous le savez? Alors moi, je ne vais pas m'aventurer à aller à un endroit où mon Seigneur Jésus, qui habite ma vie, n'est pas le bienvenu. Donc la réponse, nous l'avons. J'avais déjà dit un jour qu'au début d'un concert hard rock, le leader du groupe de hard rock a demandé à tout ce qui pouvait s'appeler chrétien dans l'auditoire, c'est-à-dire dans la salle du concert, de pouvoir sortir sur le champ, car ils n'étaient pas les bienvenus. Et ça vous étonne? Il y a des endroits où le diable se manifeste par excellence, où des attentats même se produisent. Il y a des endroits où le chrétien n'a plus sa place. Pourquoi? Parce que nous avons été mis à part. Vous avez aussi déjà raconté ce chrétien qui, tout jeune, nouvellement converti, avait du mal parce qu'il aimait danser. Il aimait aller dans les boîtes de nuit. Et on a beau à plusieurs reprises lui expliquer qu'il ne faut pas aller à tel endroit, mais il n'en était pas convaincu. Je dis entre guillemets, laissez le Saint-Esprit convaincre les gens. Vous l'avez dit, très bien. Il y a une autre façon de pouvoir éclairer les gens, prier pour elles, prier pour ces personnes. Mais ne soyons pas des gens qui essayent de forcer la main. Et pourquoi je le dis? Parce que ce jeune homme, ce jeune chrétien, il était néanmoins sincère. Et il s'est tenu devant Dieu. Et il a dit, Seigneur, on me le dit en long en large, mais moi j'ai besoin que tu me parles. Et comme à l'habitude, il est parti. Ce fameux samedi soir. Et c'est bizarre, hein, c'est le samedi soir qu'il y a les boîtes de nuit pour nous empêcher d'être tout frais le dimanche matin. Bon, enfin, ce jour-là, il est parti. Hein. Et puis, alors qu'il a bien dansé, parce que c'était un bon danseur, il s'est assis gentiment parce qu'il était quelque peu fatigué. Et c'est alors, comme en réponse à sa prière, le Saint-Esprit lui a donné la réponse qu'il voulait. Et alors qu'il voyait les gens danser dans cette pénombre, quel ne fut pas son étonnement quand ses yeux se sont ouverts et ont commencé à voir des petits démons, c'est bien le mot, des petits êtres qui étaient là avec des pieds de biche et qui couraient entre les jambes des gens. Et il a fallu qu'à un moment donné, le Saint-Esprit lève le voile sur le monde spirituel, car il y a un monde spirituel, frères et sœurs. pour comprendre que ce n'était plus sa place. Et à ce moment-là, il s'est levé et plus jamais il est parti en boîte. Vous savez, dans cette histoire, la vraie question est de savoir est-ce que j'aime Jésus-Christ plus que tout autre chose. Parce que la Bible dit, eh bien, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je veux terminer avec le troisième P. Vous l'avez tous dit, d'une même voix. On vient de terminer avec la parole, bien sûr. Le deuxième pied de notre marche chrétienne, qui nous permet de marcher en tout équilibre, c'est la prière. Jésus nous a donné un canevas, non pas pour le réciter bêtement, texto. Il nous a juste donné un modèle. Et ce modèle, juste le relire avec vous, Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Jésus qui répond à la prière de ses disciples, qui a dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. Voici donc comment vous devez prier, répond Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, mais aussi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il y a trois mots qui retiennent mon attention. Sanctifié, régner, et volonté. Mais remarquez que Dieu, eh bien, par la bouche de son Saint-Fils Jésus, voudrait que lorsque nous nous approchons de lui, que nous puissions réaliser qu'il est le Dieu trois fois saint. Et son nom doit être honoré, doit être révéré, respecté sur toute la surface de la terre. Mais vous êtes d'accord avec moi ce matin pour reconnaître que ce nom doit être aussi eh bien, sanctifié, mis à part au plus profond de notre cœur. Et cela eh bien, se fera si eh bien, nous acceptons de nous laisser eh bien, séparer, éloigner de toute forme de mal. L'ordre ici n'est pas anodin. Jésus nous invite à pouvoir prier et dire que ton nom soit sanctifié. Et dans la mesure où le nom du Seigneur sera sanctifié, dans la mesure où nous désirerons la sainteté dans nos vies, la sanctification dans nos vies, eh bien, le Seigneur en retour pourra pleinement régner sur nos cœurs et également accomplir sa volonté. Vous comprenez ? Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Oui, Seigneur, souffle, comme on l'a chanté tout à l'heure. Souffle sur nous, et que ton Église soit sainte. Je termine en rappelant juste la promesse qu'on a lue tout à l'heure de Corinthiens chapitre 6, les versets 17 et 18. C'est pourquoi séparez-vous du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur. Et alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Dieu nous fait la promesse qu'il nous fera bon accueil. Et qu'il sera un véritable père pour chacun d'entre nous. Si, et seulement si, nous acceptons de nous séparer de toute souillure de ce monde. Est-ce que nous comprenons le message que Dieu veut nous dire ce matin? Si nous obéissons à cet ordre. Si nous commençons dès aujourd'hui, plus que jamais, à pouvoir mettre notre vie en règle, car c'est le mot. La Bible dit par la bouche du prophète Amos, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. » Et c'est triste. Malheureusement, tous ne partiront pas. Tous ne seront pas prêts. C'est pour ça que d'une manière personnelle, nous avons besoin de bien nous tenir devant Dieu et ne pas permettre qu'une seule souillure puisse nous empêcher d'être fin prêt pour ce retour. Et pour cela, on a besoin de manifester dans notre vie, d'une manière concrète, les trois P. Rappelez-vous, le paraclétos, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui nous assiste, qui nous aide. Le deuxième P, aidez-moi, la parole de Dieu, la Bible. Si un jour vous me voyez venir avec un autre livre, mais où sont les anciens? Arrêtez-moi, hein. Parce que je serais déjà en train de prendre des chemins de traverse. C'est la Bible, c'est ça mon repère. Si j'ai une réponse à vous donner, c'est par la Bible. Je ne suis pas là en vous communiquant mes idées. Je veux me soumettre à la parole de Dieu. La parole de Dieu demeurera éternellement. Vous savez qu'on retrouvera la parole de Dieu dans le ciel et on finira par eh bien découvrir eh bien qu'elle est infinie, qu'elle est profonde. Et puis enfin, le troisième P, c'est la prière. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Est-ce qu'on peut tous se lever, s'il vous plaît? Et d'une manière solennelle, on va se tenir devant Dieu. Seigneur, cette église locale t'appartient. Tu en es le maître. Et je crois, au-delà des frères et des sœurs qui ont, Seigneur Père, travaillé, même bâti cette église locale, c'est toi qui as posé la première pierre. Car tu voulais que ce lieu soit comme un phare, Seigneur, pour éclairer, mon Dieu, les coins ténébreux de toute cette ville d'Istres. Je parle de la ville d'Istres, mais Seigneur, j'ose rajouter entre Saint, Rassuin, Saint-Mitre et tous les environs. Et nous voudrions plus que jamais te laisser briller par nos vies. Et pour cela, Seigneur, nous voudrions tout à nouveau, d'une même voix, d'un même cœur, Seigneur, tout à nouveau nous présenter devant toi, monter sur ton autel et, Seigneur, déposer nos cœurs afin que tu puisses continuer ce travail de sanctification par le Saint-Esprit. Nous choisissons ce matin de mettre notre vie en règle, de sortir de toute forme de mensonge, de pouvoir marcher de vérité en vérité, de pouvoir, Seigneur, Père, haïr le mal et marcher sur la voie sainte, de ne jamais rendre le mal pour le mal, mais nous en remettre à ce Dieu qui combat pour nous. Seigneur, nous voudrions, Seigneur, aimer le bien et le poursuivre et haïr le mal comme toi tu haïs le mal parce que tu es un Dieu trois fois saint. Nous voudrions nous séparer des souillures de ce monde et nous attacher, alléluia, marcher fermement sur la voie sainte que tu as tracée afin qu'en retour nous soyons heureux, afin qu'en retour nous soyons plus que vainqueurs, afin que nous puissions, mon Dieu, marcher la tête relevée. Seigneur, je te prie dans ta grâce, glorifie-toi. Nous te laissons, Seigneur, pleinement le champ libre dans cette église pour faire de cette année une année de transition, une année de grâce, une année de délivrance, une année où, Seigneur, Père, mon Dieu, tu vas sanctifier nos bouches, tu vas sanctifier nos yeux, tu vas sanctifier notre entendement, tu vas sanctifier les porte de tous les sens de notre corps. Seigneur, nous lions les œuvres ténébreuses. Seigneur, Père, tu vois ces nœuds, tu vois ces manigances, tu vois, Seigneur, tout ce qui a pu s'infiltrer. Il a fallu, Seigneur, près de, Seigneur, Père, plus de 2 semaines pour nettoyer tout le temple du temps d'Ézéchias. Seigneur, mon Dieu, prends le temps qu'il faut pour nous purifier, nous sanctifier. Viens déranger. Viens chasser tous ces vendeurs du temple et que nous puissions laisser la gloire de Dieu tout à nouveau entrer dans notre alléluia corps qui est le temple du Saint-Esprit. Bénis mes frères, mes sœurs. Seigneur, bouleverse-nous, dérange-nous. Seigneur Père, montre-nous. Insiste, pointe du doigt tout ce qui n'est pas à ta gloire. Nous voudrions marcher sur cette voie de sanctification afin qu'en retour tu règnes parmi nous et afin aussi que, Seigneur, ta volonté puisse s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.